Vous écoutez RTL. RTL Soir,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Tiens, on s'est dit ce soir on va rassembler les meilleurs, on l'a fait, on est comme ça.
Ah, excusez-moi, pardon, je savais pas.
Isabelle Saporta, notre chroniqueuse à RTL est avec nous, bonsoir. Stéphane Blakowski, journaliste aussi à nos côtés, bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Malafaye, président de Sinopia, est à nos côtés, bonsoir Alexandre. Et Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine et le quatrième à commenter l'actualité. Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir.
Je voudrais qu'on commence avec cet hommage national aujourd'hui à Charles Aznavour. Charles Aznavour est devenu naturellement, unanimement, un des visages de la France. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin aux Invalides. Il y avait ses amis, les officiels français et arméniens. Ils étaient tous là pour saluer une dernière fois, dans ce lieu très officiel, le grand Charles. Son cercueil a ensuite quitté la cour des Invalides au son d'Emmenez-moi. Franchement, est-ce que c'était pas trop, ou est-ce que vous avez trouvé tout cela absolument parfait? Vous allez tout nous dire, évidemment. D'abord, un regard sur les réseaux sociaux avec Cécile Decèze d'RTL.fr. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Que disent les internautes alors?
Alors, beaucoup ont préféré ne pas regarder l'hommage, pas contre Aznavour, mais contre Macron. Rien que de le voir me donne de l'allergie, explique Clémentine. Madeleine décrit, elle, un hommage pitoyable de m'as-tu vu sponsorisé par les contribuables parqués à l'extérieur, bien entendu. Julien estime que c'est un acte jupitérien stupide que d'imposer un hommage non voulu par la famille. D'autres, comme Jules, ne comprennent pas cet hommage national alors que Charles Aznavour vivait en Suisse. Il y en a quand même certains qui ont aimé, comme Jeanne, qui salue un bel hommage.
Voilà, hommage commenté par les internautes. Vos paroles à vous, Isabelle Saporta d'abord.
Je trouve que si c'est juste la question de l'évasion fiscale, dans ces cas-là, il ne fallait pas en faire pour Johnny non plus. Hein, donc il y a un petit moment.
Il n'y a pas eu hommage national aux Invalides pour Johnny. Il y a eu comme ça une petite soirée, une petite cérémonie.
Non, enfin moi je sais pas. J'entends effectivement Michel Fugain, tout ça, nous dire que les Invalides c'est un lieu symbolique, que c'est un chanteur, un très grand chanteur, mais que les Invalides c'est pas le lieu, que c'était dans un autre lieu. Bon, écoutez, moi j'en sais rien sur la question du lieu ou pas du lieu. Moi par contre, ce qui m'angoisse vraiment viscéralement, c'est à quel point la France est devenue une espèce de pays de commémoration permanente. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que ce soit Johnny ou que ce soit maintenant Aznavour, on est en train de se regarder dans notre passé et incapable de se projeter dans notre futur. C'est-à-dire, vraiment, on revit ce moment enchanté qu'était notre passé. Et moi, ça m'angoisse, en fait. Je sais pas, on n'a rien d'autre à faire que de commémorer en permanence. Et j'ai l'impression que maintenant, Jupiter, effectivement, enfin, Emmanuel Macron, notre président, est devenu vraiment le roi de la commémoration. Donc, je m'en réjouis pour lui, mais j'aimerais plutôt qu'il trace l'avenir et qu'on aille de l'avant. En même temps,
il vient de décéder. C'est pas comme si on faisait une cérémonie d'hommage à Charles Trenet ou Tino Rossi avec le côté commémoration du passé.
Non, mais c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la commémoration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est bon pour faire une bonne commémoration. Donc d'Ormesson, qui était un très grand écrivain, commémoration.
Tout est bon pour Emmanuel Macron pour faire une bonne commémoration.
Alors peut-être, vous avez peut-être raison. Voilà.
Alexandre,
voilà. Ah bah oui, c'est un peu le front du problème. Qu'on fasse un hommage, qu'on trouve un plan, qu'on réunisse des gens pour rendre hommage à quelqu'un comme Charles Aznavour, extraordinaire. On peut pas le laisser partir comme ça. Et je pense qu'il y a des milliers, voire peut-être des millions de gens qui auraient envie de s'associer, de se retrouver là. Ça c'est très bien, mais peut-être pas sous ce format-là, peut-être pas aux Invalides, et peut-être pas présidé par Emmanuel Macron. Alors qui facilite les choses en tant que maître des cérémonies, ça c'est très bien. Il a tous les pouvoirs, il peut le faire. Mais qui prenne la parole. Enfin, je veux dire que je sache quand quelqu'un d'autre de très éminent est rentré dans un très bel endroit. En l'occurrence André Malraux au Panthéon, c'est pas Charles de Gaulle qui a fait le discours, pourtant il était aux affaires.
Mais on va pas demander à Françoise Nyssen de faire un discours, soyez raisonnable. Non, mais... c'est pas possible.
Je suis d'accord avec cet argument, mais on n'est pas
c'est
forcément
méchant.
Obligé de piocher là, on n'est pas obligé de se faire mal. Il y a, je pense, d'éminentes personnalités en France, notamment en matière de culture, qui auraient été ou de chansons, qui auraient très bien pu parler. Voilà. Et puis c'est vrai que là, je voyais les images ce matin comme tout un chacun, je me suis pas retiré pour ne pas les voir. Et je regardais toute une série de monstres sacrés de la France qui étaient là, sur un plan culturel, cinématographique. Ils doivent tous se dire, mais moi aussi je vais avoir droit à mon hommage. Donc, mais c'est trop, voilà, c'est trop. Et je pense que pour le coup, le président, il en fait trop aussi, parce que pourquoi lui toujours, quoi? Pourquoi lui tout seul devant le cercueil? Pourquoi on n'aurait pas vu une assemblée de gens devant le cercueil? Pourquoi c'est. Voilà, il y a un moment donné, alors quand c'est un militaire, je veux bien, mais
oui,
quand
bien
c'est
sûr.
Des autres Français engagés, pas forcément.
Voilà. Stéphane
Moi je serais plutôt. Ben non, je m'étonnais même quand j'ai reçu quand on est un peu avant les thèmes, qu'on puisse créer un débat là-dessus. J'étais frappé, ça m'étonne d'ailleurs pas tant que ça que les haters, comme on dit, enfin ceux qui râlent tout le temps protestent là-dessus. Ça me fait penser à ce que disait Macron hier quand il était à Colombey, en disant De Gaulle disait on a le droit de tout dire mais il faut arrêter de se plaindre si les Français
c'est
se
Macron
plaignent,
qui se plaint tout le temps maintenant. C'est Macron, il est pas content des Français, il va le content parce que les Français se plaignent.
Bah, voilà, j'entends là une cérémonie d'hommage à Aznavour qui est un chanteur que tout le monde aime. On marque le coup parce qu'on n'allait pas faire moins que pour Johnny et je vois d'un seul coup la France entière se trouve à se plaindre alors que bon ça paraît un peu légitime qu'un chanteur comme ça l'achat de notre patrimoine quand il disparaît en lui rendant hommage. C'est vrai qu'il en fait peut-être un peu trop. Enfin, j'étais pas hyper énervé en voyant l'hommage. Moi, je trouvais ça plutôt bien qu'on rende hommage à un grand chanteur ou
au petit Charles. Quand on voyait la voiture partir sur l'Esplanade des Invalides, il y avait personne.
À vrai dire, je l'ai pas regardé. Je comprends
qu'on fasse,
si vous voulez.
C'est dommage qu'ils aient pas mieux prévu pour que la foule puisse venir. Les gens puissent. Il y avait personne. C'est pas
possible. J'avais un rendez-vous à Valis ce matin. J'y ai pas été en me disant ça va être la foule. Et en fait, non, j'ai eu tort.
C'est tranquille. Jean-Christophe Buisson.
Moi, pour revenir à ce que disait Isabelle, qui emploie les termes de passé et d'avenir, entre les deux, il y a le présent. Et je crois que ce genre de cérémonie sert à montrer que la France, grosso modo, se réunit quelques minutes, quelques heures autour de quelqu'un qui vient de mourir, qui a incarné le passé, mais dont on se souviendra donc dans l'avenir. Donc le moment présent de communion, je pense qu'il est important dans notre pays où on passe notre temps effectivement à s'entre-déchirer. Quant au fait que ce soit Macron qui préside, moi je suis pas du tout scandalisé par ça, parce que Aznavour c'est plus que de la chanson. Et que pour présider une cérémonie de quelqu'un qui en plus incarne l'assimilation française dans ce qu'elle a de plus extraordinaire, qui incarne la langue française dans ce qu'elle a de plus extraordinaire, et d'ailleurs Macron a beaucoup insisté là-dessus, et il a eu raison dans son discours, je pense qu'on ne peut pas mettre moins que le président de la République, pas parce que c'est Emmanuel Macron, mais parce qu'il incarne la France, il représente la France, il représente au-delà de l'État français l'histoire de France, pour présider à ce type de cérémonie. Quant au lieu, là, c'est vrai que j'ai un petit doute, parce que d'habitude, c'est vrai que c'est un endroit qui est en train d'être banalisé. C'est un endroit qui est à l'origine créé par Louis XIV pour les militaires, pour les soldats blessés. C'est vrai que les chanteurs qui ont plutôt une tradition assez antimilitariste, mais c'est sûrement pas le cas d'Aznavour, mais on peut peut-être trouver un autre lieu.
C'est un peu comme la Légion d'honneur au départ, c'est pour récompenser les braves sur le champ de bataille. Exactement. Aujourd'hui, on la donne à n'importe qui, mais il y a des gens qui se sont illustrés dans des domaines.
Je suis allé au sac de Pierre Schoendorfer, ça avait quand même du sens aux Invalides, Pierre Schoendorfer.
On aurait dû le faire ailleurs.
Quant au fait que n'oublions pas une chose, c'est qu'Aznavour adorait les hommages, adorait les décorations, et je pense qu'il aurait été ravi de cette cérémonie, de lui rendre hommage aux Invalides par le président de la République.
Alors qu'on disait que la famille était plutôt opposée au départ.
Moi, je vous parle de Charles Aznavour.
Ouais, mais ils ont pu diffuser l'article, la famille, ils étaient contents quand même. Ils ont pu mettre le petit massage de pub pour la fondation Aznavour.
Isabelle, on aurait dû le faire ailleurs ou pas?
Moi, je rebondis juste sur ce que dit Jean-Christophe Buisson. Je trouve ça joli ce que vous venez de dire, Jean-Christophe. C'est vrai que si
c'est joli, Isabelle.
Si c'est la symbolique de la réconciliation nationale, je trouve ça assez joli. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où chaque communauté s'oppose à l'autre, où on oppose les jeunes aux vieux, certaines communautés entre elles, etc. Et effectivement, si la symbolique, c'était de dire, au fond, voilà, une assimilation réussie, alors dans ces cas-là, ça valait peut-être les Invalides.
C'est vrai, on aurait pu réconcilier ça aussi, Éric Zemmour.
C'est ce que j'étais en train de penser.
Allez, on prolonge tout ça dans un instant avec Jean-Christophe Buisson, avec Alexandre Malafeuille, avec Stéphane Blakowski et Isabelle Saporta. On fait le monde jusqu'à 20h. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et après l'hommage à Charles Aznavour, on va changer de sujet avec Jean-Christophe Buisson, avec Alexandre Malafeuille, Stéphane Blakowski et Isabelle Saporta. Et bien sûr, Cécile Decez d'RTL.fr pour tous les sentiments des internautes. On a entendu tout à l'heure sur RTL la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson. Elle a reçu cet après-midi les industriels du tabac. S'ils ne font pas de véritables efforts et ne s'engagent pas sur des objectifs chiffrés pour en finir avec la pollution générée par les mégots de cigarettes, elle n'hésitera pas à les taxer. Voilà son sentiment, en tous les cas, à la sortie du face-à-face. Il faut préciser que chaque année, il y a quand même 30 milliards de mégots, dont 40% qui sont dans la nature et qui sont jetés dans notre pays.
Hein. Dans le monde. 30 milliards, c'est dans le monde, je crois.
Non, c'est qu'en France. C'est 2 milliards rien qu'à
colossal,
Paris.
Hein.
C'est colossal.
Petite bataille ou grand combat? D'abord, avis des internautes et on vous écoute.
Alors, Colin pense que c'est un début timide face au chantier du nucléaire, du glyphosate ou du réchauffement climatique. Mais aucune bataille ne paraît petite sur les réseaux sociaux. D'abord, Enzo qui ne comprend pas pourquoi ce serait aux fabricants de payer et pas aux consommateurs de jeter correctement leurs mégots. Kinté, à l'inverse, rappelle que c'est une solution qui a déjà été adoptée à Bruxelles. Alors que Guillaume demande pourquoi les mégots ne sont-ils pas biodégradables.
Après les internautes, Isabelle Saporta, vous en pensez quoi vous?
Bah, écoutez, moi, j'aime bien que Brune Poirson soit très martiale sur le mégot. C'est vrai qu'elle l'a été un peu moins sur le glyphosate et le reste, mais enfin bon, allons-y sur le mégot, on est à fond. Brune, si tu nous entends. Et écoutez, moi, le fait de faire payer les cigarettiers me fait pas pleurer. C'est vrai que quand on voit ce que ça coûte en impôts locaux, enfin, c'est avec les impôts locaux qu'on paye effectivement le nettoyage. J'ai vu que sur le Grand Lyon, il y en avait pour 55 millions chaque année. Ça va pas me faire pleurer. Maintenant, moi, je vois qu'on a d'un côté le truc incantatoire habituel de la Macronie, c'est-à-dire on va faire payer les cigarettiers. Et de l'autre côté, on a les cigarettiers qui sortent assez peinards de la Réunion en disant, écoutez, nous, après avoir mis la cigarette tue, on va mettre le mégot pollu sur le paquet. fait. Merci les mecs. Et deuxième truc, on va sans doute faire des petits cendriers portatifs qu'on donnera aux, aux fumeurs. Donc je pense qu'on n'est pas à deux doigts de les faire payer, mais je me réjouis si elle y arrive. Mmh. Voilà.
Bon courage en tous les cas. On les a entendus dans RTL Soir, ces cigarettiers disaient on va éduquer les fumeurs.
On va les battre, on va les, peut-être les fouetter même.
Ouais, moi je trouve que c'est la communication de Brune Poirson là, donc, qui fait parler d'elle, en disant plaisantant peut-être parce qu'elle sent que le remaniement c'est le moment de paraître active. Mais cette façon, c'est une vision un peu de manière centralisée de régler les problèmes en prenant, en faisant une réunion à Paris avec les responsables des grands groupes et puis en prenant, je sais pas, une loi, un décret, je ne sais quoi, qui va régler le problème. C'est-à-dire, c'est exactement un problème qui se règle d'une manière différente. C'est-à-dire que je comprends qu'elle fasse parler d'elle, mais c'est un problème qui se règle au, milieu, au niveau local. C'est-à-dire que c'est dans les municipalités où chacun doit monter des opérations, des trucs de... Alors après, chacun fait comme il veut. Hein. J'ai vu que partout en France, ça se faisait. À Cannes, on met des amendes monstrueuses. Dans d'autres endroits, on fait de la prévention, on organise...
Mais il y a même qui mettent des cendriers publics plus nombreux.
C'est une
bonne idée.
Bêtement, donc, j'ai l'impression que cette idée de vouloir créer une espèce de cellule mégot, quelque part, gouvernement, qui serait peut-être un rapport sur les mégots, je ne sais pas comment on fait dans cette manière-là, c'est pas... C'est encourager plutôt, au contraire, quelque chose au niveau local. Toutes les villes le font ou ont envie de le faire, donc leur permettre d'en faire plus, parce que c'est au niveau local qu'on va en ramasser plus, qu'on va les récolter.
J'aime bien la cellule mégot, je trouve ça chouette.
C'est chouette. Alexandre, Malafaire.
En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet du recyclage et il y a le sujet du civisme. Alors, sur le recyclage, il y a un coût. Après, il faut voir si c'est pertinent de faire payer les industriels. Voilà, enfin, j'en sais rien. Il faut étudier cette question. On ne va pas la débattre maintenant ni la trancher maintenant. Voilà. Par contre, il y a un problème de civisme. Il y a globalement, il y a un mégot sur deux qui finit dans la rue. On voit nos rues, elles sont globalement dégueulasses. Alors là, il y a deux approches. Soit on fait comme ça, la loi, c'est-à-dire une fois de plus la loi, des amendes, ou alors on change de donne. Et on se dit, est-ce que pour une fois, on ne pourrait pas mettre les Français au défi? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux Français, écoutez, c'est plus possible. Voilà, vous n'êtes pas raisonnable. Vous jetez partout. On ne peut plus se permettre de polluer. La pollution, ça devient un luxe extrêmement cher quand même. Ça voit ce que ça coûte quand on voit les problématiques auxquelles on est confronté. Et puis on a ce problème de civisme, de comportement du quotidien. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas changer? Alors on vous fait un défi. On vous met au défi. On se donne un an. Voilà, si dans un an, les rues sont propres, si le truc est réglé, eh ben, on bouge pas et tout va bien. Mais si dans un an, on n'y est pas, eh ben, à ce moment-là, le paquet de cigarettes, il prend 3 euros. Voilà. Non, mais il faut que les gens se comprennent qu'à un moment donné, mal se comporter, ça a un coût pour la société, ça a un coût pour l'entretien, pour le visuel, pour le tourisme, parce que c'est insupportable. Je regardais en venant encore là, juste devant RTL. C'est dégueulasse. Mais voilà, et on dit, vous avez un an pour faire
c'est
votre.
Pire devant Europe 1,
pour changer. Voilà, sûrement. Voilà. Mais vous, voilà, changez vos comportements. On vous donne un an pour vous habituer. Peut-être que les industriels peuvent vous aider avec des micro-cendriers, machin, etc. Mais si vous ne faites pas le job, on vous pilonne. Parce qu'à un moment donné, la société peut pas continuer à avoir des gens qui sont assistés, qui réclament tout l'État, qui se plaignent tout le temps, comme dirait Macron, et qui en plus font pas le moindre effort minimum, parce que c'est pas qu'une question pour le coup de petites gens pas sympas. Tout le monde se comporte mal, on les voit dans la rue, les gens bien habillés, les gens pas bien habillés, etc. Tout le monde fait pas le job. Voilà. Donc on vous donne un an, et dans un an, on vous en met, si je puis dire, plein le portefeuille, si jamais vous n'êtes pas raisonnable.
Voilà, c'est très intéressant. On va prolonger tout ça, et sur ce sujet en particulier, écoutez Jean-Christophe Husson dans un instant. On respire et puis on revient, si on peut dire, sur les mégots. À tout de suite.
RTL Soir. Jusqu'à 20h,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et on évoque ce soir avec nos polémistes, notamment le face-à-face de l'après-midi entre la secrétaire d'État Brune Poirson et les industriels du tabac. Donc elle veut un petit peu leur demander de participer à la gestion des mégots. 30 milliards donc de mégots, dont 40% dans la nature, sont jetés en France. On a Alexandre Malafaye qui propose un défi aux Français. Soyez propres pendant un an, sinon 3 euros supplémentaires. Allez, on va déjà arriver à 10 euros le paquet. Donc,
c'est pas grave, on passe à 12 si c'est pas propre. À un moment donné, si les gens ne prennent pas leurs responsabilités... Bon, il faut... Pour le coup, c'est intéressant comme expérience politique. Voir si on peut impliquer les gens dans la transformation.
Regardez, comme à Sagaimpour, on ne met plus un chewing-gum par terre puisqu'on va en prison dès qu'on le fait. Ouais. Donc c'est quand même...
Pourquoi pas. Jean-Christophe Buisson.
Non, Alexandre dit quelque chose de très juste, c'est la confrontation entre la notion de civisme et de recyclage. Parce que dans l'absolu, si par exemple, on arrive à faire des cigarettes bien recyclées, c'est-à-dire qu'on sait que les cigarettes, on peut mélanger de l'argile, on peut faire des briques avec. On sait que la toxicité qu'il y a dans les cigarettes, on peut s'en servir pour faire des pesticides, pour tuer les larves de moustiques qui développent des maladies absolument atroces dans le monde entier. Mais si on rend ces cigarettes, ou si on enlève les filtres, les gens vont continuer à les jeter, parce qu'ils vont se dire, ah, bah, de toute façon, c'est recyclé, il n'y a pas de problème. Donc on retombe sur le problème de la pollution, c'est-à-dire que si les cigarettes sont trop facilement recyclables, il n'y a aucune raison d'être... Sinon celle de ah ben vous êtes pas propre. Et là c'est compliqué parce que l'argument, je pense, de la toxicité de l'enfant dans un bac à sable qui se met une cigarette à la bouche, ça fonctionne, je pense que ça fait peur. Donc il faut que les cigarettes d'une certaine manière restent toxiques. Et effectivement, il faut beaucoup plus jouer, à mon avis, sur le civisme des gens. Avec alors, est-ce qu'il faut des taxes? par l'État, je n'en sais rien, parce qu'à ce moment-là, il faut aussi taxer l'huile de vidange, parce que les voitures perdent l'huile de vidange.
On se dit, il y a des tas de... Enfin, moi, je me suis, comme vous, un peu plongé sur le dossier cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait en fait des industriels, enfin, des secteurs industriels qui étaient déjà concernés par des filières où on considère qu'il y a un principe pollueur-payeur, ouais. C'est-à-dire qu'on les oblige à organiser... Donc, à assumer une partie du coût du traitement. Alors, j'ai pas toute la liste, mais les pneus, les, je sais pas quoi, les piles, des objets polluants comme ça. Absolument. Donc, la liste est assez longue. Il y a déjà 15 secteurs qui sont dans ce cas. Je me demande pourquoi on demande la question aux cigarettes. On leur impose des
pistes. Voilà. Ils sont trop puissants.
Enfin, quelle puissance ils vont nous priver de cigarettes, c'est ça? Et alors?
Isabelle, ça va.
Ouais, l'industrie du tabac, c'est quand même, c'est quelques petits millions quand même, quelques milliards. Bon,
on n'est pas obligé d'accepter des pots de vin non plus. Enfin,
mais je veux dire, c'est vrai que c'est toujours le même bras de fer. C'est comme avec le lobby des pesticides, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un bras de fer un peu compliqué où on vous dit c'est les emplois, c'est on s'en va, on fait plus d'emplois. Donc c'est toujours le même bras de fer. Mais moi, je pense que la filière sur ceux de recyclage, je trouve que c'est malin. Je pense qu'il faut la mettre en place et c'est pas une mauvaise idée du tout. Maintenant, il faut que ça marche un petit peu mieux que ce qu'on a fait sur les emballages et le reste, parce que pour le moment, on n'est pas très très bon en recyclage en France. Hein. Donc si ça marche, pourquoi pas. Moi, je veux dire honnêtement. Faire payer les cigarettiers ne me fait pas pleurer du tout. Je veux dire, quand on voit à la veille des grands procès tous les mensonges qui ont été dits sur ça ne donne pas le cancer, tout va très bien, madame la marquise, pour continuer à nous en vendre, moi, ce n'est pas des gens sur lesquels vous allez me faire pleurer. Par contre, je suis entièrement d'accord avec vous deux aussi. C'est-à-dire que de toute façon, je veux dire, c'est quelque chose aussi d'individuel. Donc, effectivement, on ne peut pas jeter dans la rue.
On ne peut pas changer les mœurs en changeant la loi.
Oui, c'est pour ça que ce que proposent les cigarettiers, il ne faut pas le jeter à la poubelle, il ne faut pas forcément ricaner sur l'idée d'avoir. Non, mais sur l'idée de faire plus de publicité, plus de sensibilisation, y compris sur le paquet de cigarettes, de fournir des cendriers portatifs sur les pistes de ski, on peut ricaner.
Mais depuis un petit moment.
Oui, c'est pratique.
Ouais, mais il faut le surdévelopper.
Il ouais, y a quand même une mentalité
développer
française,
la conscience citoyenne des Français en disant, bah, c'est vrai que le mégot de cigarette, maintenant,
c'est une très bonne opportunité pour faire de la politique autrement. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on responsabilise les gens avec de véritables objectifs sur des choses qui sont très concrètes, qui en plus participent à une dimension citoyenne, et on dit, voilà, prenez vos responsabilités, on compte sur vous. Le renouveau démocratique, c'est peut-être ça. Enfin, il y avait un véritable élan, engouement par rapport à ça autour de l'arrivée de Macron au pouvoir. Et là, on a une vraie opportunité de faire de la politique avec les Français. Si les gens ne veulent pas jouer le jeu, s'ils ne sont pas impliqués, si personne ne veut jouer le jeu, on en tirera des leçons, on continuera à faire des lois et on fixera.
Il y a un petit défaut de civisme, on est un côté méditerranéen en France, c'est-à-dire qu'on n'est pas les Allemands qui font du tri. Ceux qui ont été en Allemagne, voient à quel point les Allemands sont hyper respectueux du tri. Quand on va en Suisse, on n'arrive même pas à comprendre le nombre de poubelles qu'ils ont. Je pense qu'on ne peut même pas le mémoriser en tant que Français, le nombre de choix qui s'offrent avant de faire du tri. Nous, on n'est même pas du tout. On n'est pas concerné par ça, mais c'est les mégots, c'est tout, quoi. C'est les crottes de chiens, c'est en train de partir, mais ça a longtemps été le cas. Les scooters qui font ce qu'ils veulent, bah voilà. Enfin, chacun dans son petit coin, il ne gêne personne. Le gars qui jette un mégot, c'est pas grand chose. Le gars qui est en trottinette, il dérange pas grand monde. Et à force de pas déranger grand monde, mais de le faire tous ensemble,
sur les trottoirs,
c'est un manque de civisme, voilà, qui devient
qui est un trait français. Quoi. Me gêne parce qu'on est en train de le généraliser. Vous savez qu'on est en train de mettre des caméras où on va sanctionner les gens, les voitures qui, par exemple, ne s'arrêtent pas à un passage clouté, même si le feu est rouge et que le piéton est engagé, on peut les récupérer après, retrouver la plaque. Etc. On est en train quand même d'entrer dans une société qui ressemble étrangement à la société soviétique, donc de surveillance généralisée et de punition généralisée. C'est pour ça que si on est encouragé à prévenir ce genre de choses, effectivement, comme le dit Alexandre, pas forcément en punissant les gens, mais en les incitant fermement, fortement à avoir des gestes citoyens, je pense que c'est une meilleure solution que de les faire cracher encore une fois de l'argent ou de les punir par des amendes qui finissent par coûter très très cher.
70€ à Paris pour un mégot.
Ouais. Ça existe déjà, ça. Hein.
68, ouais.
Mais ça marche, c'est développé, vous en avez déjà vu, vous?
Ah bah alors, moi, je ne l'ai pas. Je ne veux pas accuser la mairie de Paris, mais bizarrement, devant l'entrée du Figaro, où les gens se retrouvent pour fumer, c'est incroyable le nombre de policiers qui passent pour verbaliser les journalistes qui fument dehors.
Elle est là, cette brigade. Donc elle existe. Et notamment chez vous, Jean-Christophe Buisson, Alexandre Malafaye, Stéphane Blakowski et Isabelle Saporta. On refait le monde jusqu'à 20h. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
Et ce soir, c'est avec Jean-Christophe Buisson, avec Isabelle Saporta, avec Stéphane Blakowski et Alexandre Malafaye. Le dernier sujet qu'on vous propose concerne les 1 an de MeToo ou Balance ton porc. On a envie de savoir si les choses ont évolué favorablement, selon vous. On va vous écouter en tous les cas. Premier regard d'abord avec les internautes, Cécile.
Alors, sur Internet, ils sont nombreux à critiquer le mouvement qui serait, juste pour Cédric, par exemple, une histoire ridicule montée en épingle par les puissants lobbies féminasses. Beaucoup trouvent encore des excuses aux violeurs, les tenues que portent les joggeuses par exemple. D'autres sont déçus du bilan, surtout du peu de condamnations en France. pour Corinne, il y a encore un gros problème d'éducation et de frustration chez certains messieurs.
Alors, est-ce que les choses ont bougé et évolué en tous les cas? On va donner la parole d'abord à Isabelle, sa porteur.
Ah bah ouais, la fille en primes, pour fêter MeToo. Bon, je vais commencer par du très politiquement correct, en fait. Moi, je pense qu'effectivement, il fallait libérer la parole de la femme. Je pense que c'est bien que le porc qui était un porc et qui se comportait en porc flippe un peu plus maintenant. Je pense que c'est bien que ces choses-là aient été dites. Tout ça me paraît pas mal. Bon, une fois que ça s'est dit, je pense aussi que d'avoir érigé les réseaux sociaux comme des tribunaux populaires, c'est pas possible. C'est-à-dire que, au fond, aujourd'hui, ces questions-là ne se règlent pas devant la justice. Enfin, je sais bien qu'il y a plus de plaintes, et ça, c'est très bien, etc. Si ce n'est que ces plus de plaintes sont toutes dans des métropoles et pas dans la diagonale du vide, pas en province. Donc, on voit bien que c'est effectivement dans les métropoles, là où les gens ont un peu d'argent, qu'on porte plainte et pas ailleurs. Donc, il y a quand même une question aussi économique qui se pose. Moi, je pense qu'on peut pas faire abstraction de ça. Mais pour revenir là-dessus, si vous voulez, moi, les réseaux sociaux comme tribunal populaire, c'est pas possible. C'est-à-dire que de jeter des noms en pâture comme ça, du jour au lendemain, de briser des vies. Moi, je pense que ça va mal finir. C'est-à-dire, je pense qu'il va y avoir un mec, un jour, qui va finir par se suicider et dont on apprendra qu'il n'a jamais rien fait, qu'il a été parfait et qu'il a... Voilà. Moi, ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Et par ailleurs, je trouve que ça fait monter en puissance un féminisme qui est un féminisme essentialiste anti-homme, quoi. Et donc, moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour, effectivement, que les femmes gagnent la même chose que les hommes. Je suis pour que les mecs soient respectueux des hommes. Mais par contre, pas pour cette espèce de truc anti-homme. Et par ailleurs, je pense que ce truc anti-homme et cette espèce d'antagonisme qu'on est en train de monter entre les hommes et les femmes, effectivement, voile quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus important encore. C'est finalement la question de la lutte des classes. C'est-à-dire, voilà la question des revenus économiques. Je pense qu'entre vous et moi, finalement, il y a moins d'écart qu'entre moi et une nana qui est intérimaire, qui travaille de nuit, qui est chez Davigel, enfin, ou je sais pas quelle marque, enfin, n'importe où, et qui, elle, se fait emmerder par son patron, qui a droit de vie ou de mort sur elle. Moi, malgré tout, si demain mon patron m'emmerde, je suis à RTL, je peux gueuler, j'ai des tribunes, je gagne bien ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je trouve qu'au fond, il y a moins de différence entre vous et moi qu'entre moi et une femme intérimaire de nuit. Voilà.
Alexandre.
Bah, d'abord, c'est vrai que je rebondis sur ce que vous disiez, c'est assez compliqué d'assumer la problématique parce que on entend des chiffres, il y a des statistiques, des sondages, et finalement quand on modélise le tour, on a l'impression qu'un homme sur deux serait un porc, quoi. Donc ça, c'est quand même évidemment une attaque un peu frontale. Et la deuxième chose, c'est que pour avoir fait pas mal de débats,
surtout qu'on est trois dans le studio.
Oui, c'est ouais, ça, c'est ce que j'ai dit.
Là, je sais pas comment on va s'en sortir.
Oui, pardon. Coup,
on exempterait Stéphane Carpentier.
Exactement. Jusqu'à présent, oui, c'est Stéphane. Voilà, la deuxième problématique, c'est que c'est vrai que je rebondis aussi sur ce que vous disiez, pour avoir pas mal de débats depuis un an, à chaque fois qu'il y a une féministe sur un plateau, globalement, on est exclu du débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer. En tant qu'homme, on est à la base disqualifié pour pouvoir en parler, ce qui est compliqué. Maintenant, sur le fond, c'est un vrai sujet. C'est bien que quelque part, on ait un véritable focus, que quelque part, la parole des femmes soit libérée. Alors, on en a fait la grande cause du quinquennat. Ça me fait un peu sourire quand même, parce que je veux bien qu'on fasse des grandes causes comme ça, mais grandes causes et quels effets ? C'est-à-dire, dans la vraie vie, concrètement, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit aussi astucieux que ça que de mettre de très très gros mots, mais c'est toujours le problème de la politique qui veut toujours enfler les choses pour faire des vagues, de la fumée, etc. Bon. Et après, plus fondamentalement, là où je suis quand même un peu dépité, c'est que je reconnecte ça avec un problème de fond, de civisme et d'éducation. Et quand on sait qu'en 2017, Jean-Michel Blanquer a lancé son programme avec quatre mots-clés, lire, écrire, compter, respecter autrui. Et je me dis que qu'en 2017, il a fallu attendre 2017 pour avoir finalement l'accent mis sur cet élément fondamental qui est de dire, bah, peut-être que l'école, on devrait aussi apprendre à respecter autrui. Si on avait commencé ça il y a 50 ans, de manière basique, à l'école, bah, je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie des problématiques de respect de l'autre et donc de respect de la femme serait beaucoup mieux en pratique. Et je pense que malheureusement sur ces sujets-là, si vraiment on s'y met, hein, j'ai bien si l'école s'y met sérieusement, qu'on s'attache sans faire du théorie du genre, etc., mais on s'attache vraiment à la question, il faudra quand même deux générations pour que ça change vraiment en profondeur. Donc voilà, c'est le problème de civilisation ou de société, il faut les traiter en profondeur et il faut commencer au bon niveau.
Stéphane Blakowski.
Moi je suis, un peu comme disait Isabelle dans l'Excel, mais j'ai l'impression qu'il y a deux manières de le percevoir. D'abord, c'est un phénomène américain au départ, et donc ça se passe pas exactement de la même manière en France. Balance ton port, au départ, on aurait pu croire que ça aurait été un mouvement plus agressif, d'ailleurs, parce que qui a fait l'appel à la délation, à l'insulte. Et en fait, non, en France, j'ai l'impression que le mouvement prend moins parce que simplement notre culture, notre manière d'envisager les rapports entre les hommes et les femmes est assez différente de celle des Américains. On a vu Catherine Deneuve et d'autres personnalités avaient même pris
elles
en
ont
soin
pris plein la tronche pour l'avoir fait en
oui,
même
mais,
temps.
Oui, mais enfin, ça a étonné complètement. Je sais pas, à New York, les gens étaient scotchés que Deneuve puisse dire une chose pareille. La liberté d'importuner les femmes, c'était donc, je sais pas, on voit par exemple aux États-Unis que ça prend des. Mais, comme c'est la société américaine, tout se judiciarise. Donc, ils se sont rendus compte que ce phénomène pouvait créer des procès, et donc dans toutes les entreprises, ça intervient. Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement qui refusent d'investir dans une entreprise si on n'avait pas une charte sur les rapports entre hommes et femmes au sein de l'entreprise, parce que ça peut faire des procès, parce qu'il y a des gars, le gars qui s'appelle Wynn, qui avait des casinos de l'immobilier, quand il s'est fait choper, il s'est fait virer, sa boîte a perdu 20%. Donc, les gens qui ont investi dedans étaient mal, et donc, il y a des règlements qui se mettent en place chez Google, chez Facebook. On n'a pas le droit de demander deux fois à une fille si elle veut sortir. Je demande une fois à Isabelle, elle me dit non. La deuxième fois, hop, c'est mauvais pour moi. Enfin, des choses qui ne marchent pas tellement bien en France, où on a le sentiment qu'au contraire, ces rapports-là ne doivent pas. On ne doit pas légiférer, mais on doit laisser un peu passer de liberté à chacun et de comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas et d'autres qu'on peut continuer à faire. Quoi.
Jean-Christophe Buisson.
Ouais, moi, l'américanisation, je suis entièrement d'accord avec cette idée, mais autant dans le fait de judiciariser que de communautariser. Les Américains vivent.
C'est vrai.
C'est une société communautarisée à mort. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans des entreprises, on en arrive à des aberrations qui sont que les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre, parce que les hommes ont tellement peur de se faire attaquer pour avoir regardé, observé ou tenté de séduire une femme, qu'on en arrive à cette extrémité-là aux États-Unis. Je pense qu'en France, ce n'est évidemment pas la même civilisation. Et de la même façon, se mêle en France, au sein du mouvement féministe, cette espèce de tendance héritée du gauchisme culturel des années 60-70 et d'un certain marxisme, qui est effectivement de remettre en cause, de toute façon, jusqu'au bout, l'idée même de société harmonieuse.
C'est même une lecture un peu marxiste. Quoi.
C'est-à-dire on va éradiquer la misogynie, on va éradiquer le machisme. Mais ben non. Et on ne va pas éradiquer la violence non plus, parce que ça fait partie de la nature humaine, et on n'y arrivera pas. Et quand on le fait, c'est avec des systèmes totalitaires. Donc il y aura toujours des misogynes, il y aura toujours des machos. Simplement, la société, l'État français démocratique, il a pour canaliser cette violence sous toutes ses formes, que ce soit une violence vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des homosexuels. La société est là pour canaliser. Mais on n'arrivera pas à l'éradiquer, il y aura toujours des gens qui seront comme ça, il faut qu'il y en ait le moins possible. Mais c'est pas avec, en mélangeant l'américanisation d'une part et l'espèce de marxisme mal digéré d'autre part, qu'on arrivera à grand chose. Et c'est un petit peu une tendance de certaines féministes.
On arrête là-dessus. Merci Jean-Christophe Buisson, Alexandre Malafaï, Stéphane Blakowski, Isabelle Saportin. On vous souhaite une belle soirée, un bon week-end.
Merci.
On a refait le monde en ce bon vendredi. Week-end. On refera le monde encore avec Marc-Olivier Fogiel ce lundi à partir de 19h15. Dans un instant, le grand direct et le football.